L'actualité des Alpes du Sud avec cet incendie mortel à Cigoyer.
Une maison s'est embrasée cette nuit. Une femme de 87 ans a été légèrement blessée, mais non, son époux est décédé. 35 pompiers sont toujours sur place. L'habitation menace de s'effondrer.
Le squat chez Roger Agap évacué.
Depuis l'été 2020, ce bâtiment, propriété du maire Roger Didier, était occupé illégalement pour y accueillir des migrants. Face au refus des squatteurs de quitter les lieux, les forces de l'ordre ont dû intervenir.
Les remontées mécaniques seront bien ouvertes cet hiver.
Jean-Baptiste Lemoyne l'a confirmé hier dans les Alpes de Provence. Le secrétaire d'État en charge du tourisme a inauguré le congrès des maires. Pour l'heure, pas de passe sanitaire. Pour l'heure.
Et le Tour de France qui revient dans les Hautes-Alpes.
Col du Granon et un 14 juillet sous le ciel de Briançon. Le parcours a été dévoilé hier au Palais des Congrès de Paris. Christophe Lourenço l'a suivi pour Alpe 1.
Forcalquier veut devenir la capitale de la diète méditerranéenne.
On ne parle pas d'un régime, mais d'une façon de faire de la cuisine avec des produits de saison et surtout de l'huile d'olive en abondance. Et en plus, c'est bon pour la santé, c'est l'OMS qui le dit. Ce samedi, Forcalquier annoncera sa candidature pour devenir la ville référente nationale de cette diète au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Ce week-end, il ne faudra pas avoir le vertige.
Pablo Signoret est au alpin, champion du monde de Highline. Il va traverser sur une sangle plate 500 mètres à 200 mètres de haut entre Guillestre et Mont-Dauphin.
Et puis sport avec opération 8e sacre pour Sébastien Ogier.
Il croise les doigts, notre haut alpin qui a pris la direction de l'Espagne, un rallye 100% asphalte qui revient sur le calendrier. Sébastien Ogier peut clore le suspense d'un nouveau titre dès ce week-end en creusant l'écart avec Elphine Evans. Météo.
Oui, avec de discrets nuages de haute altitude qui parcourent le ciel des Alpes du Sud en matinée. Ils vont s'épaissir un peu l'après-midi, atténuant l'éclat du soleil. Les températures sur nos deux départements de 16 à 19 degrés. Mais tout d'abord, cet incendie mortel à Cigolier, au lieu dit Forest-la-Cour.
Une habitation de 300 mètres carrés sur deux étages s'est embrasée dans la nuit de ce jeudi à vendredi. L'alerte a été donnée hier vers 22h40. 35 pompiers étaient toujours sur place peu avant 7h. Des soldats du feu de Gandière, Gap, la Bâtie-Neuve, Vennes et Seillac, la base du Kerak, est intervenue avec du matériel spécifique pour ravitailler les hommes et assurer des soins si besoin. Une femme de 87 ans a été évacuée sur l'hôpital. Elle était légèrement brûlée, mais un homme, probablement l'époux de cette dernière, est décédé. Le corps n'a pu pour l'heure être évacué de l'habitation en flammes. Les pompiers font face à un sinistre extrêmement violent et notamment une habitation qui menace de s'effondrer totalement de l'intérieur. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Des gendarmes qui sont déjà sur place.
Ça s'est passé à Gap hier matin. Le squat chez Roger a été évacué.
Si la préfecture avance une évacuation dans le calme, l'information est démentie par les occupants. Ces derniers se sont installés dans cette bâtisse, propriété du maire Roger Didier. Depuis l'été 2020, ils y accueillaient illégalement des migrants. En janvier, la justice leur avait ordonné de quitter les lieux dans un délai de 6 mois. Selon les membres de chez Roger, un homme de 19 ans aurait été blessé hier dans l'évacuation par les forces de l'ordre. Quant aux services de l'État, eux explique que les forces de l'ordre ont découvert cet homme déjà blessé au visage et présentant des signes de maladie. Il aurait refusé une prise en charge par les pompiers ou une hospitalisation. Les 6 occupants retrouvés dans le squat ont eu la possibilité de rencontrer des agents de l'État pour une prise en charge sociale et une analyse de leur situation administrative. 4 ont refusé. 2 demandeurs d'asile en situation régulière ont été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
On s'en doutait depuis quelques temps et c'est donc confirmé. Le Tour de France reviendra en 2022 dans les Hautes-Alpes.
Après un an d'absence, le peloton empruntera à nouveau les routes du département avec peut-être un petit brin de nostalgie puisque le col du Granon fait son retour sur la carte après 35 ans. Et puis le 14 juillet sera briançonné. Christophe Lourenço était au Palais des Congrès de Paris hier. Il a suivi pour Alpe 1 la présentation de cette grande boucle, son reportage.
À l'instar de l'ambiance mise par les supporters néerlandais au niveau du virage numéro 7 de l'Alpe d'Huez, la bonne humeur sera sans doute également au rendez-vous de la 11e étape de ce Tour de France qui sera jugé au sommet du col du Granon le 13 juillet prochain. Il a fallu attendre 36 ans pour que la grande boucle revienne sur cette ascension mythique du massif des Cerces qui pointe à 2413 mètres d'altitude avec 11,3 km d'ascension à 9,2%. Une arrivée mythique donc sur la commune de Saint-Chaffray qui avait vu en 1986 Bernard Hinault porter pour la dernière fois de sa carrière le maillot jaune qu'il avait pourtant amené à 5 reprises à Paris. Natif de Briançon et manager général d'AG2R Citroën Team, Vincent Lavenu était sur le bord de la route avec ses enfants et espère que ses coureurs pourront lui offrir un beau cadeau pour ce passage de la grande boucle à la maison.
Ce serait un peu un rêve pour moi que de pouvoir voir remporter un de mes coureurs l'étape là-haut, évidemment, ne serait-ce que par rapport à l'histoire de l'équipe, à mon histoire, à l'histoire du Tour de France et ce passage qui sera un moment très fort. Si effectivement j'ai un de mes coureurs qui remporte cette étape, il me fera un joli cadeau ce jour-là.
Cette étape de 149 km qui partira d'Albertville afin de poursuivre cette semaine alpestre du Tour n'est pas qu'un défi sportif pour les différents coureurs, à l'instar du haut alpin d'adoption Rudy Mollard qui connaît très bien cette montée, mais aussi une prouesse technique pour les services du département qui doivent préparer cette arrivée quelque peu particulière. Marcel Cana, vice-président du conseil départemental en charge des routes.
Une arrivée au col du Granon, c'est à peu près identique à une arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. C'est-à-dire qu'il faut autant de moyens matériels et humains au col du Granon que ce qu'il y en a sur les Champs-Élysées. Donc c'est quand même une prouesse. Il y a tout un enjeu routier, il y a un enjeu sécurité. Faire monter des gros véhicules au col du Granon, tous les aménagements qui vont être faits, c'est des aménagements mineurs. La route est relativement en bon état, il y a quelques déformations, il y a quelques virages à élargir.
Bien plus habitué des honneurs du Tour de France en étant pour la 35e reprise ville-étape, un siècle après la toute première fois, la ville de Briançon sera la capitale du vélo à l'occasion de la fête nationale, avec cette étape de 166 km entre la cité Vauban et la légendaire Alpe d'Huez, une énorme fierté pour le maire Arnaud Murgeat qui n'avait jamais caché son intention de ramener la grande boucle dans sa commune dès sa prise de poste.
Ce sera la fête du vélo pendant tout un mois à Briançon et dans le Grand Briançonnais pendant tout le mois de juillet de l'année prochaine. On y travaillait avec Christian Prudhomme depuis le premier jour du mandat. On lui avait dit qu'on mettrait tous les moyens, qu'on ferait tout ce qui était en notre possible pour faciliter le retour du Tour. C'est fait. Le maire que je suis et toute l'équipe municipale, on n'a pas de mots parce que c'est merveilleux. C'est que du bonheur.
Les hauts alpins et plus spécifiquement ceux du nord du département sont une nouvelle fois gâtés par la plus grande course cycliste au monde, avec deux étapes qui s'annoncent déjà d'anthologie, à l'instar de celle de 1986. Un Briançon Alpe d'Huez au tracé identique que celui de 2022, qui avait vu la victoire de Bernard Hinault main dans la main avec son successeur au palmarès et coéquipier, l'américain Greg LeMond.
Il est content, le père Bernard. Il est content. Premier, Bernard Hinault, de cette fabuleuse étape qui nous aura conduit de Briançon à l'Alpe d'Huez.
Merci Christophe. Notez que l'étape du Tour qui permet à des cyclotouristes de courir dans les pas des plus grands de la discipline se tiendra le 10 juillet entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Les préinscriptions ont d'ores et déjà explosé, ce qui promet des retombées économiques encore plus grandes pour le département et plus spécifiquement pour le Briançonnais.
Et sur les rails, l'ouverture à la concurrence en région PACA suscite un mouvement de grève.
Oui, toute la circulation a été impactée hier, notamment sur l'axe Marseille-Briançon. De l'eau de ligne ferroviaire en région PACA ont été ouverts à la concurrence. Transdev et la SNCF ont remporté le marché. Les manifestants redoutent cette annonce, alors que Renaud Muselier, le président de la région, estime qu'il s'agit d'un cercle vertueux qui augmentera l'offre, la fréquentation et donc les recettes.
Les remontées mécaniques dans les stations de ski seront bien ouvertes cet hiver.
Et pour l'heure, sans l'ombre d'un pass sanitaire. C'est en tout cas ce qu'a avancé hier Jean-Baptiste Lemoine. Le secrétaire d'État en charge du tourisme est venu inaugurer le congrès des maires, assisteront et donc réaffirmer le soutien de l'État à ses élus locaux. Il fallait donc rassurer auprès de 450 d'entre eux qui avaient fait le déplacement. Cet hiver, on skie, a une nouvelle fois martelé le secrétaire d'État, comme il l'avait fait il y a 15 jours au congrès des domaines skiable de France à Chambéry.
Cet hiver, c'est ouvert, c'est ça l'idée. Hein. C'est Clermont et Mécanique qui, l'année dernière, n'avait pas pu ouvrir parce que nous n'avions pas la vaccination, parce que nous n'avions pas le pass sanitaire à l'époque. Eh bien, vont pouvoir ouvrir, c'est d'ailleurs le cas, dès le week-end prochain. Et je peux vous dire que d'ailleurs, les réservations montent vite et fort. En tous les cas, c'est tous les signaux que j'ai de la part des professionnels de la montagne française. Aujourd'hui, on est dans le droit commun, c'est-à-dire que à ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques. Il l'est, par exemple, si vous êtes dans un restaurant, dans une station. Il est là où il est imposé sur les activités dans lesquelles il a été mis en place sur les territoires nationaux. Maintenant, vous savez, il faut être très vigilant, très prudent. Le pass sanitaire, c'est ce qui a permis de laisser ouvert un certain nombre d'activités cet été, malgré le variant Delta. Et donc, il ne faut pas s'interdire d'avoir recours à cet outil, le cas échéant, si ça peut permettre de sécuriser la saison.
Jean-Baptiste Lemoyne au micro. Alpe 1 d'Aurore Valoril a également indiqué qu'il reviendrait dans quelques semaines dans le département pour un déplacement dédié notamment au thermalisme à Gréoux-les-Bains.
Et puis le congrès des maires qui a aussi été l'occasion pour la présidente du département de faire des annonces.
Celle de renouveler tous les contrats territoriaux avec 14 millions d'euros répartis équitablement. Le dispositif du fonds d'aide aux communes va être renforcé pour être plus efficace. Enfin, création d'un fonds stratégique plus souple, plus puissant. 1 500 000 euros seront mobilisés pour 3 ans. Une subvention de 8 000 euros pour l'association des maires sera proposée lors de la prochaine assemblée. Le conseil départemental des Alpes-de-Provence qui recevra aujourd'hui une délégation du Sénat tchèque. Ses membres de la commission permanente pour le développement rural seront accueillis dès 9h30 par Eliane Bareil, la présidente du département. Ces 7 sénateurs dont le vice-président Jan Hornik sont accompagnés d'une experte économique et d'une traductrice. L'objectif est de leur présenter des activités qui répondent aux enjeux du changement climatique et de la transition énergétique. Un partage des savoir-faire qui les mènera au Mai pour visiter la centrale de panneaux photovoltaïques avant de se rendre à Roumoule pour visiter la station de traitement.
Des fruits, des légumes des saisons, mais aussi de l'huile d'olive en abondance. Et si vous vous mettiez à la diète méditerranéenne?
Et oui, on ne parle pas de régime. Les propriétés de la diète méditerranéenne sur la santé sont reconnues depuis plusieurs années. Des bénéfices qui ont d'ailleurs été officiellement avancés par l'OMS, Organisation Mondiale pour la Santé, en 1994, et par l'UNESCO, qui l'a inscrite au patrimoine culturel immatériel. Ce samedi, à l'occasion de la journée des senteurs et des saveurs, à Fort-Calquier, on mettra en avant et à l'honneur cette diète méditerranéenne. Il faut dire que la commune basalpine annoncera officiellement sa candidature pour devenir la ville référente nationale de la diète méditerranéenne au patrimoine immatériel de l'UNESCO, aux côtés de l'Italie, de la Grèce, de la Croatie, du Maroc ou encore de l'Espagne, du Portugal et de Chypre. Karine Aigon de l'association Le Goût de la Méditerranée.
Beaucoup de pays de la Méditerranée, en fait, portent ces valeurs. Ce qui n'est pas le cas de la France, pour l'instant. On espère que ça va changer. Et la diète, ça représente, en fait, une agriculture durable, une alimentation durable, une autonomie alimentaire. Et c'est vrai que le territoire de Fort-Calquier et plus largement tout ce qui se passe dans le parc du Luberon porte une alimentation, une autonomie alimentaire. On peut aller chercher son petit fromage à côté de chez soi, on peut aller voir son éleveur, on peut faire les petits marchés de proximité. Et c'est ce qui fait que le 04, en l'occurrence, porte les valeurs de la diète méditerranéenne. En fait, nous allons avoir une tente devant l'office de tourisme. On va faire des conférences, débats, échanges aussi avec le public. Donc toute la journée, depuis 10h le matin jusqu'au soir, on va parler de cette alimentation, de cette agriculture. On sera également aussi en duplex avec le Maroc, avec l'Italie, qui eux portent ces valeurs depuis plus longtemps que nous.
Et notez que ce samedi, ces tables rondes seront animées par Jeanne Iglaise, chef de la Bonne Étape à Château-Arnoux-Saint-Auban, mais aussi Gérard Vive, cuisinier militant et ancien président du Conservatoire des cuisines méditerranéennes.
L'étoile géante de Saint-Vincent, bientôt à Digne-les-Bains.
1,50 m d'envergure, 50 kilos, rien que ça. Elle est fabriquée par Norbert Mille. Une étoile avec une force symbolique, c'est pour ça que la ville a voulu l'acquérir. C'est une reproduction à grande échelle du célèbre bijou en argent incrusté de petits fossiles noirs en forme d'étoile. Ces pentacrines étaient récoltées sur la colline Saint-Vincent au 19e siècle.
Et on parle maintenant de ce show qui tient sur un peu plus qu'un fil. Hein.
Sur un fil de 500 mètres de long à 200 mètres de haut, il ne faut pas avoir le vertige. La grande foire de la Saint-Luc de Guillestre, qui aura lieu lundi, propose dès demain à 15h un programme aux sensations fortes garanties, avec la mise en exergue d'une discipline méconnue mais pourtant spectaculaire, c'est la Highline. Les choses sont bien faites parce que le recordman mondial est haut alpin, il s'appelle Pablo Signoret, il s'apprête à réaliser donc cette traversée vertigineuse de 500 mètres de long sur une sangle plate de quelques centimètres entre Guillestre et Mont-Dauphin, le tout à 200 mètres de haut au-dessus des gorges du Guil. Le Var 5 a déjà réalisé des prouesses bien plus impressionnantes à l'instar de ses 422,82 mètres, les yeux bandés en 2017, mais celle-ci est bien différente pour lui parce qu'il en rêve depuis de nombreuses années.
Tout a commencé il y a 5 ans ou 6 ans, quand j'ai pour la première fois regardé avec des yeux de slackliner ses gorges, et le record du monde à l'époque était de 375 mètres, et la traversée est autour des 400 mètres, du coup c'était incroyable pour nous à l'époque d'imaginer ça. Cette traversée, elle est aussi pleine de sens parce que on relie deux communes qui sont magnifiques et qui sont emblématiques de la région. Du coup, c'est vraiment symbolique pour moi. Et puis, ça me met un peu de pression et c'est ça qui la rend spéciale, en fait. C'est que tout au long de la traversée, je vais porter un peu cette histoire et la richesse de ces deux communes, en fait. Du coup, c'est ce qui fait la particularité de cette traversée pour moi.
Rendez-vous donc ce samedi à partir de 13h30 avec une initiation gratuite de Slackline à Mont-Dauphin.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Et opération 8e titre pour Sébastien Ogier ce week-end.
Il croise les doigts avec 24 points d'avance sur son coéquipier gallo Elfyn Evans à l'aube de cette avant-dernière étape du championnat WRC en Catalogne. Le haut alpin a parfaitement débuté ce jeudi sa quête du 8e sacre de champion du monde des rallyes. Vainqueur du shakedown devant le Britannique, le champ Sora a besoin de 7 points de plus que son rival, mais tout reste ouvert lors de ce rallye d'Espagne 100% asphalte, de retour après un an d'absence. Un parcours catalan de 17 spéciales pour 280 km chronométrés qui verra également une lutte pour la 3e place au classement général entre Thierry Neuville, Ott Tanak et Kalle Rovanperä. Du hockey du côté du hockey sur glace, des Diables Rouges immunisés contre la rage des boxeurs de Bordeaux face à l'équipe en forme du moment qui a enchaîné 5 victoires de rang. La formation briançonnaise aura fort à faire ce soir sur la glace bordelaise à partir de 20h15. Un duel mordant en Ligue Magnus que les hommes de Daniel Sedlak abordent avec un déficit de résultats et une 9e place trompeuse au regard d'un début de saison décevant ponctué de 2 succès et 5 revers. Les Rapaces de Gap, eux, sont actuellement sur la dernière place du podium, 3e à l'aube de cette 10e journée de Ligue Magnus. Un strapontin que les joueurs d'Éric Blé vont tenter de conforter ce vendredi à l'Alp Arena face au Joker de Cergy Pontoise, une formation francilienne qui vient de rebondir face à l'Ormadie d'Anglette. Début de cette rencontre que le Alpin n'espère pas terminer sur une mauvaise blague à 20h30. Des Rapaces de Gap qui ont un coup dur puisqu'ils perdent l'un de leurs meilleurs éléments. Le défenseur de 28 ans, Raphaël Fort, doit mettre un terme à sa saison suite à une blessure.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.